AMC Tour 2025, le salon des solutions pour tous les territoires sur Radio Territoria.
Bienvenue sur Radio Territoria pour cette ANC Tour 2025, le salon des solutions de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui est consacrée à un enjeu majeur pour nos territoires, la planification écologique. À la croisée des ambitions nationales et des réalités régionales, nous allons explorer ensemble comment les grandes orientations de l'État se traduisent concrètement dans les territoires, à travers l'exemple de la COP régionale Bourgogne-Franche-Comté, outil de territorialisation de la transition écologique. Voilà, vous vous moquez de moi parce que j'ai réussi à dire territorialisation, donc merci. Face aux défis du dérèglement climatique, de la biodiversité, de la sobriété énergétique et de la transformation des modes de vie, les collectivités locales jouent un rôle pivot. La planification écologique doit permettre d'articuler les efforts de l'État et ceux des territoires avec une logique de co-construction et d'efficacité. Pour en discuter aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Mecdoud, conseiller coordination nationale des contrats pour la réussite de la transition écologique à l'ANCT. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Victoria Sieber est avec nous également, bonjour. Vous êtes directrice de programme territorialisation, deux fois, au secrétariat général et à la planification écologique. Merci de votre présence. Avec nous également Rémi Proust, secrétaire général de la COP Bourgogne-Franche-Comté.
Bonjour.
Merci bien Rémi de votre présence également sur cette table ronde. Alors, on va parler d'ambition nationale, de la planification écologique, de la déclinaison régionale via la COP Bourgogne-Franche-Comté, les outils, défis, réussites concrètes dans les territoires. Et peut-être, si on a le temps, en fin de séance, en quelques minutes, une conclusion collective, si vous le voulez bien. Alors, on va commencer par les ambitions nationales de la planification écologique. Peut-être avec vous, Victoria, quelles sont aujourd'hui les grandes priorités fixées par l'État en matière de planification écologique ?
Alors, aujourd'hui, l'État français est engagé sur un certain nombre de fronts, à vrai dire, sur la planification écologique. Évidemment, celui que tout le monde connaît, c'est l'atténuation, donc la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, que tout le monde connaît, qui sont cadrées par les accords de Paris. Donc la France, aujourd'hui, doit économiser un peu plus de 50% de ses émissions par rapport aux années 90 d'ici 2030. Donc c'est un effort assez considérable. Et par ailleurs, il est très important aussi de ne pas oublier les autres grands objectifs qui relèvent de l'écologie, à savoir notamment la préservation des ressources, donc typiquement la sobriété en eau, notamment avec des objectifs de moins 10% de consommation de l'eau dans notre pays, et également de préservation de la biodiversité, donc avec des objectifs très importants en termes de renaturation. Et tout ça est aussi à mettre en regard à la fois de la protection de la santé et aussi de l'adaptation au changement climatique, puisque comme on commence à le comprendre, on ne va probablement pas réussir à diminuer suffisamment nos impacts.
Oui,
donc
c'est
il faut
ça.
Absolument commencer à s'adapter, ce qui est d'ailleurs le sujet du dernier plan national d'adaptation au changement climatique qui vient d'être publié.
Voilà, j'allais vous dire 50% en 2030, zéro carbone 2050, on n'y arrivera pas, on n'est pas sûr d'y arriver.
On se met en ordre de marche pour y arriver en tout cas.
D'accord. Julien, quel rôle joue la ANCT dans l'articulation entre les politiques nationales et les réalités locales en matière de transition écologique ?
Donc c'est vrai que cette articulation se fait surtout principalement au travers des CRTE, donc contrat pour la réussite de la transition écologique, sur lequel je reviendrai peut-être juste après. Mais si je voulais un peu repréciser que le rôle de l'ANCT, il était donc à la fois national à Paris, aujourd'hui vous avez l'ANC Tour, on voit toute l'équipe parisienne est venue, mais l'ANCT elle est surtout dans les territoires, c'est le préfet de département qui nous représente.
Oui.
Avec ses délégués, souvent qui sont en préfecture ou en direction départementale des territoires, et ce sont eux qui sont au contact des collectivités et qui au quotidien animent ces enjeux de transition écologique, ce sont vraiment les préfets.
Donc ça, l'élément essentiel, le préfet avant tout qui permet de faire le lien. En fait.
Exactement, exactement. Donc c'est le préfet avant qui nous représente et la ANCT a un rôle vraiment d'accompagnement. Donc là, c'est là vraiment à avoir ce rôle-là, accompagner pour permettre de traduire ces politiques en projets concrets avec de l'ingénierie pour concevoir des stratégies territoriales, concevoir des projets, les piloter, les évaluer.
Alors on viendra sur un territoire plus précisément avec vous Rémi dans un instant, mais justement Victoria, vous, comment vous accompagnez les territoires dans la territorialisation de ces objectifs ?
Alors justement, parlons de territorialisation.
Ouais.
Typiquement, effectivement, donc, l'État s'est fixé un certain nombre d'objectifs, il appartient maintenant d'arriver à faire descendre d'échelle.
Ouais.
Et nous, la façon dont on a proposé de territorialiser, du coup, comme il n'y a pas de règle générale pour le faire, c'est qu'on a institué ces fameuses COP régionales pour permettre déjà de descendre d'une échelle en termes de responsabilité et de justement de donner aussi les outils au bon niveau, au plus proche des collectivités, pour pouvoir justement se repérer en fait. Parce que finalement, les plans sont quand même assez complexes. Il y a beaucoup de différentes, il y a énormément de choses différentes auxquelles il faut penser, etc. Et surtout, l'important est aussi d'arriver à répartir l'effort. Parce qu'une fois qu'on s'est dit au national, on aimerait diviser par deux nos émissions à 2030, qu'est-ce que concrètement ça veut dire sur tous nos territoires? Comment répartir cette charge, cette part que chacun peut prendre? Et donc du coup, au SGPE, on s'est vraiment attaché à arriver à outiller finalement assez techniquement aussi finalement les territoires et notamment les régions, ouais, pour qu'ensuite chacun puisse en fait avec ce finalement cet outillage relativement technique de pouvoir choisir, faire prendre les décisions qui conviennent après en termes de choix de politique territoriale, choix d'action, et que en fait le cadre soit clair, que les règles soient claires pour tout le monde, qu'on arrive à recréer de la cohérence en remontant au niveau national et qu'on respecte nos objectifs, mais qu'évidemment toute la décision reste au niveau auquel elles appartiennent, à savoir le niveau local.
Donc décentralisation, c'était important. On va s'intéresser à la COP Bourgogne-Franche-Comté dans un instant, mais des COP, vous en avez dans tous les territoires aujourd'hui?
Tous les territoires, sauf la Guyane.
Sauf la Guyane. D'accord, mais c'est prévu aussi
Alors c'est en cours, on a eu des petits débats.
On sait que c'est moins évident.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en Guyane. Il y a énormément de travail qui est fait. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de beaucoup travailler sur l'adaptation à l'heure où on parle.
Alors justement, Rémi, quelle méthode a été choisie pour construire la COP régionale en Bourgogne-Franche-Comté?
Alors bon, on est évidemment parti du travail que Victoria vient de rappeler, hein, du coup un travail socle, hein, qui nous a permis de faire un premier diagnostic. C'est la première étape. Où est-ce qu'on en était, cette transition écologique en Bourgogne-Franche-Comté? Sur quoi on avait beaucoup avancé, sur quoi les élus avaient envie aussi d'avancer plus loin. On a fait ce diagnostic de manière très collaborative, en mobilisant tous les élus locaux, les maires de communes, les présidents de comités de communes, les conseils départementaux et bien sûr le conseil régional. Chacun a fait un diagnostic, il y en a eu plus de 2200 qui ont été rédigés en Bourgogne-Franche-Comté, c'est considérable, on a des toutes petites communes ici, donc ça a été un gros travail notamment de l'État pour accompagner chaque élu, pour poser son diagnostic qui était assez complexe sur l'ensemble des champs de la transition écologique, hein, la mobilité, le logement, l'alimentation, donc c'est très large effectivement ce qu'on balaye, la consommation de tous les jours. Sur la base de ce diagnostic, on a pu observer effectivement en fait, quelle était la part d'efforts que la Bourgogne-Franche-Comté avait encore à faire à 2030, puis demain à 2050.
Cette part,
elle est de l'ordre de 5% à peu près des efforts en termes de gaz à effet de serre pour la Bourgogne-Franche-Comté. C'est à peu près ce que représente la région en général sur l'ensemble des politiques publiques. On a une petite région, hein, administrative, etc. Pas une énorme région économique et industrielle, néanmoins on a notre part. Notamment une grosse part agricole et rurale et forestière. Hein. Grosse partie du puits de carbone forestier est en région Bourgogne-Franche-Comté, donc on a nos spécificités qui devaient exister dans cette COP. C'était la première étape. Ensuite, on a vraiment travaillé la méthode de concertation pour arriver à quelles actions prioritaires les acteurs avaient envie de mettre en place. Donc quand je dis les acteurs, c'est bien sûr les élus, mais aussi le monde économique, le monde associatif, le monde de l'enseignement et de la recherche. On a mis ensemble, dans le cadre de cette COP, cette conférence des parties, l'ensemble de ces parties prenantes pour que chacun apporte ses solutions, ses envies d'avancer et de trouver effectivement ce qui permet d'avancer un petit peu plus vite que ce qu'on fait déjà très bien, ce qu'il faut reconnaître qu'on fait déjà très bien, sur lequel on pourrait avancer un petit peu plus vite. Et ça a donné lieu à, en fait, du coup, des concertations dans chacune des préfectures de département au niveau territorial sur toutes les thématiques de la COP, les 6 mieux, hein, les fameux mieux de la planification écologique que maintenant on connaît tous. Et on a fait travailler finalement l'ensemble. On en est ressorti avec un matériau extrêmement riche. Plus de 115 pistes d'action concrètes où les acteurs ont envie de dire « nous, on y va, ensemble, collectivement, en Bourgogne-Franche-Comté ». À tout cela s'est ajouté beaucoup de concertations à différents niveaux. On a eu notamment un gros boulot du Césaire, hein, du coup, au Bourgogne-Franche-Comté, qui représente toute la société civile organisée, qui a produit effectivement une série de recommandations qu'on a venu verser à notre COP. On a eu une partie auprès des citoyens de la région directement avec une convention citoyenne.
Très
intéressant. Une convention citoyenne qui a été mise en place par le Conseil régional, qui est notre copilote, hein, de la COP. Hein, l'État fait vraiment ça en duo avec le Conseil régional, qui a produit aussi toute une partie de recommandations. On a prolongé ça avec une enquête qui a montré effectivement que les citoyens étaient prêts à avancer, en grande majorité d'entre eux, sur certains postes plus que d'autres. Notamment, ce qui était extrêmement surprenant pour nous, quand on demande aux citoyens sur quoi vous auriez 1000 euros demain, sur quoi vous les mettriez pour avancer la transition écologique, la première réponse c'est l'éducation de nos enfants. C'est intéressant d'avoir ça en tête. C'est le premier thème qui est ressorti, c'est le futur de nos enfants effectivement là-dessus. Et donc sur cette base de toute cette collecte de matériaux, on a produit du coup une feuille de route. On l'a annoncé il n'y a pas très longtemps ici en Bourgogne-Franche-Comté, qui est en fait notre cap de 44 actions très concrètes pour dire comment on fait plus vite, plus fort ensemble. en partenariat avec tout le monde économique, avec tout le monde des associations. Et du coup, on met en place effectivement une feuille de route aujourd'hui ambitieuse, concrète et documentée, avec des indicateurs très précis pour montrer aux citoyens lambda comment on avance chaque année positivement sur ce sujet de la transition écologique, là où on avance moins vite aussi, où il faudra rectifier un peu le tir. Et donc on se donne rendez-vous dans cette COP chaque année pour rendre des comptes et repenser effectivement le modèle en fonction du contexte qui va évoluer évidemment sur tous les enjeux de notre société. Voilà un peu l'idée.
Quand on écoute Rémi, Julien, on se dit finalement, c'est pour le travail que vous faites à la ANCT, le territoire est essentiel, il faut que ça parte des territoires.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les CRTE, qui sont les contrats qui sont vraiment négociés et travaillés au niveau des bassins de vie, ont été identifiés comme les outils qui permettront de traduire en projets extrêmement concrets tout ce que Rémi vient d'expliquer. Donc là, aujourd'hui, nos CRTE qui vivent depuis 2021 connaissent une nouvelle phase, une nouvelle dynamique, avec justement tout ce travail qui est fait à travers la concrétisation sur des projets. Donc les contrats sont actualisés, ils revoient, on reprend. Et donc tous les projets qui permettent de concrétiser les objectifs de la COP se retrouveront dans les CRTE.
Donc ça, c'est extrêmement intéressant également. Oui, Rémi, oui.
Juste dire, du coup, on a parlé de l'échelle régionale, là, Julien, oui. Du coup, parle de l'échelle encore plus locale. On a vraiment cet enjeu de faire travailler toutes les échelles, du coup, de décision et de décision entre le projet local d'une entreprise, d'une zone d'activité, d'un élu et de son équipe. Et finalement, ce que peut apporter une région, un conseil régional, un département dans la gouvernance, dans les actions support, on a tous notre rôle à jouer. L'enjeu étant effectivement que l'un puisse stimuler l'autre et que l'un se nourrisse de l'autre, dans les deux sens. Que l'action, l'envie de faire rencontre du coup la politique publique, celle qui supporte avec les aides, avec l'ingénierie. C'est tout l'enjeu de nos COP. Ça.
Victoria, du coup, on a l'impression aussi, en écoutant Rémi, que vraiment en région Franche-Comté, on est plus en Bourgogne-Franche-Comté, on est plutôt bon élève, on va dire. Toutes les régions ont leurs spécificités, j'imagine, et ne réagissent pas forcément toutes de la même façon.
Non, clairement. Et je pense que c'est plusieurs éléments très importants dans ce que disait aussi Rémi. C'est vraiment un partenariat entre l'État et la région à l'origine, oui. CECOP. Évidemment, chaque région a ses propres dynamiques de ce point de vue-là. Et par ailleurs, chaque région a aussi ses préférences dans la façon dont elle communique et elle dialogue avec ses territoires et de la façon dont elle mobilise ses élus. Et c'est pour ça que les COP ont vraiment... Nous, l'important, c'était de pouvoir faciliter ce que vient d'expliquer Rémi, à savoir faciliter le dialogue, créer une grammaire commune, donner des référentiels communs, donner des cadres un petit peu communs pour qu'on s'y retrouve, mais qu'après, ces cheminements et ces choix, ces décisions politiques, ces dialogues s'instaurent selon les modalités de chaque territoire, selon ses préférences. Et typiquement, on voit beaucoup de... Enfin, il y a vraiment des modèles très, très différents, avec soit des choses très techniques, qui ensuite passaient devant les élus, ou alors justement de la mobilisation des élus très granulaire, qui ensuite était consolidée. Enfin, il y a eu tous les modèles possibles, mais en tout cas, tout le monde a joué le jeu. Et on a quand même réussi à faire tout un bilan de la COP au bout d'un an, ce qui était quand même, par rapport à l'année dernière, pas une mince affaire.
Ah oui, dans un délai aussi court, en fait.
Oui, justement. Ouais, ouais. Et ça, c'est un deuxième point, ouais, très important, c'est que les COP ont vocation à être annuelles. C'est-à-dire, d'accord, que ce n'est pas une stratégie qu'on pose, on a fait le travail une fois, on le pose et après on verra, on en fera un bilan plus tard. L'idée est vraiment de le remettre sur la table tous les ans pour pouvoir en faire un état des lieux et se rediriger et être vraiment dans l'action et dans les choses très concrètes.
Est-ce que vous avez des leviers spécifiques justement pour renforcer la coordination avec les collectivités locales? Parce que ce n'est pas toujours évident avec les collectivités locales.
Oui, tout à fait. Notre feuille de route, elle est construite en vraiment deux gros axes. Un premier qui sont les actions proprement dites, hein, ouais, du coup, hein, sur la mobilité, le logement, etc. Et un deuxième axe qui est sur l'accompagnement. Et on a décidé, en Bourgogne-Franche-Comté, que l'État et le Conseil régional, sur l'ensemble des sujets de la transition écologique, allaient mieux coordonner leur accompagnement. C'est-à-dire que du coup, on va s'appuyer, bien sûr, nous l'État, sur notre réseau territorial, les sous-préfets, les DDT, qui sont en contact des porteurs de projets. Et sur ce réseau territorial-là, il pourra puiser en fait dans tout un accompagnement régional entre l'État et la région, qui lui proposera des outils, des guides, de l'ingénierie en commun. On veut faire gagner du temps aux porteurs de projets pour qu'il évite de perdre du temps d'un côté aller voir la région, de l'autre le département, de l'autre l'État, y compris ses opérateurs, l'ADEME, le CEREMA, la ANCT. On s'est réorganisé pour qu'autour de la COP, les six mieux, on ait en fait du coup une organisation pour que chaque silo soit alimenté d'outils et d'ingénierie. L'idée, c'est qu'à chaque porteur de projet sur transition écologique, il y ait une solution rapide et pas une perte de temps à aller chercher le contrat de l'un, etc. Donc, c'est un exemple même de gouvernance du coup des outils en commun. Ça passe par des guides, par des formations en commun. Ça passe aussi par une confiance réciproque, le Conseil régional, qui nous fait confiance à nous, État, sur le terrain, au contact des porteurs de projet, nos sous-préfets, nos DDT, qui sont vraiment les premiers maillons et de l'écoute. Ça passe aussi par une organisation, tous nos opérateurs de l'État, ensemble, autour des préfets, même ceux qui ne sont pas directement sous la tutelle, hein, sous l'administration des préfets, qui participent et qui jouent le jeu. Ça passe de la Banque des Territoires, en passant par BPI France, donc on va chercher très largement.
Très largement, ouais.
Ça, c'est un exemple clé.
Comment justement ça fait partie effectivement des solutions importantes, le lien avec les collectivités locales, comment vous l'associez efficacement à la NCT ?
C'est vrai que cette gouvernance, elle se fait déjà en partant du projet de la collectivité. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, on a les CRTE, on a les PCAET, qui sont vraiment des objets très importants dont les élus se sont saisis, qu'ils ont des fois obligés de faire réglementairement, mais d'après qu'ils font vivre au quotidien. Et après, la NCT, comme Rémi a expliqué, c'est que nous, on vient là pour accompagner. C'est-à-dire qu'on peut fournir de l'ingénierie pour animer, mettre en œuvre, aller chercher des bonnes pratiques inspirantes. Tout ça doit permettre un peu de concrétiser. Mais surtout, ce qui est important, c'est de partir des priorités du territoire. Si c'est un peu hors sol et qu'on est venu comme ça imposer, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment ce qui était très important, à chaque fois prendre compte de la réalité et comment on traduit l'objectif au niveau local.
Est-ce que vous avez des exemples justement à nous donner de qui peuvent être inspirants ou qu'on pourrait reproduire par exemple?
Pas plus tard que ce matin, on a fait intervenir justement le président de la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne, dans Lyon, donc voisine. Ils ont présenté un peu leur CRTE, comment ils avaient animé depuis le début ce contrat. Ils sont partis d'un projet de territoire très solide. La NCT les a accompagnés pour monter ce projet de territoire, d'un diagnostic assez précis et d'ailleurs d'un plan d'action opérationnel très concret. Et ce qui était assez, je trouvais très intéressant, c'est d'une gouvernance où ils ont associé le département Lyon, mais également la région Bourgogne-Franche-Comté, et ils ont fusionné les différentes instances de pilotage des différents contrats au sein d'une même instance. Et là, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Les maires peuvent venir présenter leur projet. Il y a un tour de table qui est constitué, et on va beaucoup plus vite comme ça.
Il faut aller plus vite, de toute façon, à un moment donné. Vous le disiez tout à l'heure, Victoria, effectivement, bon, l'objectif va être difficile à atteindre, mais vous y employez toutes les méthodes pour aller vite, alors qu'il faut quand même, ce sont des choses qui prennent du temps, sont importantes, sont nécessaires.
Il faut prendre le temps de bien faire. Et en fait, c'est pour ça que les accompagnements, souvent externes, sont aussi importants. Les collectivités n'ont pas toujours le staff interne pour pouvoir faire des projets assez ambitieux. D'où l'apport, l'accompagnement des services de l'État, des opérateurs, des différents partenaires, toute cette ingénierie locale que aussi la NCT, via son préfet, anime pour pouvoir mobiliser plus vite de l'ingénierie, la bonne ingénierie au bon besoin, au bon moment pour aller plus vite.
Rémi, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, en fait, effectivement, le constat ici en Bourgogne-Franche-Comté, il est celui déjà d'une mobilisation individuelle sur la transition écologique. C'est indéniable, il y a eu des progrès de fait depuis des années, il faut le reconnaître, et chacun a bien pris le sujet en main. Ce que permettent ces COP, c'est de se dire si on doit faire plus, le fait d'être en partenariat finalement et de mettre en commun nos moyens, nous entreprises, nous associations, nous élus, pour faire demain peut-être un réseau de chaleur qui soit commun, qui soit issu de chaleur fatale de l'entreprise, qui vienne alimenter la maison de retraite ou le logement communal, pour faire demain ensemble du coup les filières économiques qui vont alimenter la restauration collective de la commune, de la communauté de communes. On essaye effectivement à travers ces partenariats que permettent les COP de passer un cran de toutes les difficultés que les uns et les autres ont dans leur champ respectif, parce que chacun est dans son champ d'action, c'est logique, dans son plan, son contrat, sa stratégique. Et demain, nous, notre grand espoir, c'est que ces CRTE, ces fameux contrats régionaux, deviennent des contrats de territoire, au-delà du contrat de la communauté de communes avec l'État. Le contrat de tous les acteurs du territoire, qui aient des actions dans ce CRTE, qui sont des actions pilotées par le MEDEF, pilotées par la Chambre départementale d'agriculture, par l'association FNE. C'est ça notre grand espoir, de faire effectivement aboutir ces CRTE à des contrats de territoire au pluriel et pas que des contrats entre deux strates de collectivités.
Et on vous écoute dans ces instances?
Alors, il y a une écoute importante, bien sûr, parce qu'il y a évidemment un constat qui est celle de beaucoup de gouvernance, de beaucoup de contractualisation, de redondance, puis de perte de temps, et puis de dire y a des moyens, je ne sais pas les trouver. Donc il y a une attente extrêmement forte. Donc et quand on dit on veut aller plus vite, souvent on nous répond simplification. Donc on sent que le moment est important sur le sujet. Le gouvernement il travaille vraiment au quotidien, on le sent actuellement. Donc le moment est important pour réaccélérer là-dessus et faire en sorte que nos outils soient finalement plus unifiés, plus uniques et surtout acceptés par tous comme étant tels. Donc on ne peut pas les imposer, il faut qu'ils partent d'un besoin. Mais il y a un moment là, c'est pour ce qui se passe en France, je pense, et en Bourgogne-Franche-Comté.
Je vous écoute bien, Rémi, et pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit précédemment, il y a des échanges donc entre des échanges de bonnes pratiques peut-être entre COP d'une région à l'autre.
Oui, tout à fait. Justement, c'était un des intérêts aussi d'arriver à nous. Donc nous, on anime toute cette communauté de secrétaires généraux des COP au niveau central. Et justement, c'est tout l'intérêt d'arriver à comprendre comment chacun fait et quelles sont les idées qui peuvent être potentiellement reprises à d'autres endroits. Et justement, de faire ce partage de connaissances. Et aussi, nous, pareil, on continue d'outiller de façon un peu homogène pour que chacun puisse typiquement gagner du temps sur, on va parler de plusieurs échelles, régionales mais bientôt départementales, ensuite EPCI. Il faut qu'on arrive à avoir des choses qui puissent, des outils qui permettent de remonter ces échelles, de remonter les informations rapidement. Donc ça, c'est des choses que, ça peut paraître très bateau, mais c'est quand même des choses qu'on produit beaucoup pour centraliser, entre guillemets, la contrainte.
C'est aussi. Ça, il y a des objectifs nationaux et il faut les adapter à chaque territoire.
Alors ça, de toute façon, mais même les outils, en fait, il y a beaucoup de... En fait, chacun crée aussi, en fonction de son besoin, ce dont il a... Enfin, pour répondre un petit peu à la demande que nous, on peut proposer. Et nous, on essaye de simplifier aussi la façon dont on outille pour dire, ben voilà, des indicateurs, il en faudra, on vous propose, on le fait pour tout le monde au niveau central. Des outils pour remonter les informations, pareil, on vous le centralise, pour éviter aussi qu'il y ait de la perte de temps des équipes qui sont, elles, pour le coup, dans le dialogue, justement, dans la capacité à générer ces projets, ces actions, et à être dans le vrai, en fait, c'est dans le dur de l'action. Pour que tout ce qu'il y a autour, ce soit simple, simplifié et que ce soit facilement utilisable.
Rémi.
Ouais, concrètement, pour une région comme la Bourgogne-Franche-Comté, qui en fait est complètement dépendante de trois grands pôles urbains, la région parisienne qui tire le nord de notre région, la région lyonnaise le sud, la région de Strasbourg, l'Alsace et puis ensuite tout l'axe européen du nord, hein, on est complètement interdépendant. Ce dialogue il est obligatoire si on veut penser mobilité. Les gens de Lyon, aujourd'hui, beaucoup travaillent en région parisienne, dans le Jura, on travaille en Suisse. Sur ces grands sujets d'infrastructure, de décarbonation, on ne pourra être cohérent que si on pense le territoire en fonction du territoire de vie et pas comme le territoire administratif. Donc on a besoin de se mettre en relation avec les autres régions frontalières désormais, sur les grands enjeux nationaux comme l'aérien par exemple, c'est un sujet national, il faut qu'on le traite ensemble parce qu'on a vraiment des sujets aériens. Donc on a vraiment l'idée effectivement de ces COP, c'est aussi de s'être en dialogue avec l'ensemble. D'ailleurs nous, à notre COP Bourgogne-Franche-Comté, on a invité des conseillers fédéraux suisses pour parler mobilité, on a invité des vice-présidents des grandes régions de Grand Est, d'Aura et de Centre-Val-de-Loire pour parler du réseau TER qu'on a en commun. Les lignes ne s'arrêtent pas à notre frontière. Il faut penser bassin de vie, c'est tout l'enjeu.
Voilà, bien sûr, les territoires sont la clé, sont la solution, Julien, aujourd'hui, quel qu'il soit d'ailleurs le territoire, chez nous, en France, mais aussi en Europe et à l'extérieur également.
Oui, bien sûr, de toute façon, tout passera par le territoire, c'est là que les projets concrets vont émerger, c'est par toutes ces solutions qu'on va forcément arriver à atteindre nos objectifs qui sont très ambitieux. Et je pense que même de toute façon, dans un contexte budgétaire qui est contraint, on est forcé à coopérer et travailler de manière très différente. Donc quelque part, on va devoir mieux prioriser. Donc typiquement, tout ce qui est fait sur les COP, on sait où on va, on a un plan qui est clair. Il va falloir prioriser là-dessus et bien s'organiser les uns les autres, sinon on n'y arriverait pas. Donc,
On a vraiment des résultats concrets aujourd'hui. Déjà, on avance bien. Oui.
Ouais, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, on a fait du coup, on a donc une batterie d'indicateurs pour mesurer notre avancement. On a fait une première relève là, du coup, la semaine dernière, du coup, à fin 2023, par rapport à l'année de référence du coup de 1990. Donc, on a continué à décarboner en Bourgogne-Franche-Comté. On a fait en gros 17% des efforts qu'on doit faire jusqu'à 2030. On a fait une petite partie, c'est en cours. Tous les secteurs progressent. À quelques exceptions près, mais globalement, l'ensemble des secteurs sont sur la bonne trajectoire, en particulier le secteur de l'industrie, qui se décarbone très rapidement dans notre région. Du coup, c'est à marquer. On a encore à progresser sur le transport de marchandises. Vraiment, on a encore des émissions fortes en région. Alors, pas que des émissions d'ailleurs de transit. Hein. On a beaucoup d'émissions de transit en Bourgogne-Franche-Comté, c'est une plateforme, mais également des émissions du coup liées à nos consommations. Mm-hmm. On voit les postes vraiment qui apparaissent. Donc, les progrès sont en cours. On peut le constater au niveau régional, au niveau national assez facilement. Le rythme est insuffisant, il faut le dire, hein, par rapport aux accords de Paris, à ce qu'on attend. Donc à nous de trouver effectivement les points forts sur lesquels on peut gagner très vite et très rapidement, ceux qui sont plus complexes, sur lesquels ça nécessite plus de méthodes, plus de travail et probablement plus de temps. Donc vraiment d'équilibrer les efforts, c'est pour ça qu'on a une première feuille de route à 40 actions et que peut-être demain on en aura 10 supplémentaires, puis 10 supplémentaires sur des sujets sur lesquels il nous faut plus travailler et avancer progressivement à part à coup parce qu'il y a des sujets économiques, d'emploi, il y a des sujets environnementaux, de ressources qui se posent, il y a des sujets d'aménagement du territoire qui sont difficiles et des sujets politiques derrière, de mandat hein, qu'il faut se dire, qu'il faut
Alors justement, quels sont les principaux freins? Je pose la question à tous les trois, les principaux freins à une avancée rapide des choses. Commencer. Rémi, il est lancé.
Il y a des freins qu'on relève. On a un frein global qui est en fait des injonctions contradictoires. Ce qui nous a le plus gêné dans notre COP, c'était la question de la consommation. Il y a un mieux consommer dans notre COP. Et aujourd'hui, un consommateur lambda qui est orienté dans sa consommation par à la fois la publicité, par des effets de mode, par des effets du coup de groupe, ces signaux, ils sont internationaux. Ils sont européens, ils sont nationaux. On peut voir très vite qu'une mode aux États-Unis devient une consommation de viande en Bourgogne-Franche-Comté qui peut complètement déstabiliser nos filières d'élevage, par exemple, parce qu'il y a un morceau de viande qui devient à la mode sur tel ou tel hamburger ou produit préparé. D'un coup, c'est toute la filière d'abattage qui ne produisait pas ce morceau en Bourgogne-Franche-Comté qui se retrouve perdue sur 10, 15, 20% du marché. Et ces effets de consommation sont extrêmement, extrêmement prégnants sur la production, les emplois, la décarbonation qui est en fonction. Et on n'a pas les leviers. Nous, au niveau régional, et des fois pas au niveau national. Et ce n'est pas évidemment la publicité que l'État peut en faire qui va contrecarrer une publicité de mastodonte économique, de GAFAM et compagnie. On a par exemple ce genre de freins qui sont extrêmement prégnants. Voilà. Et puis après, on a des freins plus classiques, mais liés à une démographie. En Bourgogne-Franche-Comté, on perd des habitants. On a un vieillissement de la population.
Ça, c'est un vrai sujet dans certains territoires, j'imagine.
Voilà, demain, rénover des logements qui sont des passoires thermiques. On a un des pires taux de passoires thermiques en France, malheureusement, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est en grande partie parce que ces habitants sont plutôt vieillissants, n'ont pas forcément ni le moyen, ni l'envie, ni la capacité de faire les travaux. On a beaucoup de logements vacants sur lesquels le devenir, est-ce que ce sera de l'habitation demain, du résidentiel demain, il se pose avant de rénover quoi que ce soit. Ça pose des questions ensuite de capacité à financer tout ça. Région qui est vieillissante, ça veut dire moins de gens en emploi et donc finalement moins de cotisations et moins de fiscalité. Ça pose pas mal de questions du coup sur le financement de tout ça public.
Et comment à partir de tout ça on gère les priorités ? Quelles sont-elles, ces priorités aujourd'hui, Victoria ?
De façon générale, justement, aujourd'hui, de toute façon, on est dans un univers qui est relativement contraint aujourd'hui. Et typiquement, le financement, on sait qu'on a des enveloppes qui seraient idéales parce qu'il y a toute une partie en fait, de la transition écologique qui est viable économiquement, qui pourra être financée par le privé, mais il y en a toute une partie, on le sait, qui devra être financée par l'État, par le public. Et typiquement, chacun a sa part, mais c'est sûr qu'on a des enveloppes considérables à anticiper, notamment en infrastructure, etc. Maintenant, les priorités doivent s'imposer et justement les COP doivent permettre de savoir ce qui est le plus important ou le plus prioritaire d'un point de vue territorial pour pouvoir au moins allouer la part financière qu'on a déjà, les efforts et le temps aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas que le financier, il y a quand même du temps, il y a de la gouvernance, il y a de l'implication politique, il y a énormément de choses qui ne sont pas forcément que matérielles et financières pour arriver à générer du changement et de l'action. Et ça, du coup, les COP doivent permettre d'orienter pour s'assurer qu'à minima, on est bien aligné en termes et d'objectifs et d'ambition et de priorisation. On ne pourra pas tout faire l'année prochaine. Et c'est ça aussi qu'on essaye de beaucoup infuser, c'est qu'on va devoir remettre sur la table tous les ans les enjeux pour pouvoir reprioriser. Là, il va y avoir des grands enjeux d'adaptation qui vont arriver, sur lesquels il faut aussi se préparer. Et donc tout ça nécessite en fait de revenir régulièrement à la table de la discussion. Quoi.
Voilà, de l'adaptation permanente. Julien, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, mais de la transition, j'ai envie de dire, il y en a déjà aussi un peu partout. C'est-à-dire que ce n'est même pas une priorité en tant que telle. Enfin, si je reprends ce matin un peu l'exemple du Tonnerrois en Bourgogne, par exemple, ils avaient une crèche. Heureusement pour eux, ils accueillent plus en plus d'habitants. Donc là, il fallait agrandir la crèche. Ils ont agrandi et réhabilité la crèche. Et donc là, ils se sont posé des questions sur ce bâtiment. Ils ont installé les panneaux photovoltaïques. Ils ont revu le système de ventilation, installé la récupération de chaleur, installé les réservoirs d'eau. Alors, vous voyez, un projet qui, à la base, est une petite enfance, accueil, devient un projet aussi de transition écologique. Donc, ça veut dire qu'on peut en gagner sur tout. C'est-à-dire que les priorités peuvent être aussi revues avec de la transition partout.
Les priorités, on les a fixées, évidemment, on a pris ce qui avait le plus fort impact dans un premier temps. Mais ce qu'on remarque dans notre feuille de route de la COP en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ce qui est ressorti tout en premier, c'était tous les sujets gagnant-gagnant. Où d'un côté, c'est gagnant pour l'économie, pour l'emploi et le portefeuille d'une entreprise, c'est gagnant pour la santé publique, c'est gagnant pour les collectivités dans leur mission d'aménagement du territoire. Je prends un exemple très concret, par exemple, la mise en place des paiements pour services environnementaux par des collectivités qui ont la responsabilité eau, et qui aujourd'hui payent des coûts de dépollution de l'eau, dus souvent à des pratiques agricoles. C'est la cause majeure de pollution ici en Bourgogne-Franche-Comté. Elles se sont aperçues qu'en finançant le changement de pratique en amont, en prévention de la pollution, ça leur coûtait moins cher que le coût de dépollution. Donc du coup, c'est un sujet gagnant parce que, d'un côté, l'éleveur ou l'agriculteur, il reçoit directement un soutien financier qui lui permet de réaliser son changement de pratique. Et demain, c'est un sujet gagnant pour la collectivité ça va coûter moins cher. Et en plus de ça, c'est un sujet gagnant pour la collectivité politiquement parce que du coup, c'est l'alimentation qui va peut-être rentrer demain dans sa restauration collective, dans ses cantines. Parce que c'est sur ces secteurs-là, finalement, qu'ils vont recréer des filières, etc. Donc, il y a plein d'aspects comme ça qui sont gagnants-gagnants, sur lesquels on peut avancer plus vite, plus fort. Et sur lesquels, c'est logique, en première année, on a abouti là-dessus, quoi.
En tout cas, c'est passionnant de vous écouter. Puis surtout, on ressent à travers vos exemples personnels que vous avez tous les trois, en tout cas, vraiment la passion de ce que vous faites. Vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, comme on arrive à la fin de cette émission, rapidement, en conclusion, si je vous demandais juste un levier indispensable à activer pour réussir la transition, ce serait quoi ? Ce serait lequel ou lesquels ?
La coopération.
Coopération.
Oui, coopération.
J'allais dire la résilience.
Oui, c'est important aussi la résilience. Ouais. C'est vrai, partir des...
Oui, c'est la prise en compte du local, enfin vraiment de toutes les spécificités des uns et des autres. Quand on est une commune forestière, du coup, et qu'on dépend essentiellement de la forêt dans ses ressources, effectivement, on doit traiter ce sujet-là en priorité avant d'autres.
Voilà. Donc résilience, peut-être la première.
Concertation.
Ensuite, concertation, effectivement, et coopération et le local, effectivement, pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, c'est passionnant de vous écouter, on en prendrait encore, mais bon, voilà, on va en laisser un petit peu pour la suite. Merci d'avoir participé à cette table ronde. On continue ici à Dijon, l'ANC Tour, avec une prochaine table ronde dans quelques instants.
ANC Tour 2025, le salon des solutions pour tous les territoires sur Radio Territoria.